Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la fête de l'Assomption de Notre-Dame, la Bienheureuse Vierge Marie, est la grande fête pour notre pays, puisque c'est la fête nationale de la France, fille née de l'Église. En ce jour si magnifique, prions, supplions le bon Dieu par nos prières, par nos larmes si nécessaires, parce que ce pauvre pays, le nôtre, est affligé par ses plus hauts représentants qui votent depuis à présent des décennies des lois qu'on ne peut pas qualifier. La France, fille aînée de l'Église, a non seulement oublié les promesses de son baptême, l'amnésie est possible. Le bon Dieu donne, le bon Dieu retire. Il y a des grands savants, des grands théologiens qui ont pu être amnésiques, des saints même amnésiques. Pensons à Saint Albert le Grand, docteur de l'Église, qui fut le maître de Saint Thomas d'Aquin. Une si grande intelligence qui a brillé au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, à la fin de sa vie, a été amnésique. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Toute son intelligence, toute sa mémoire. Le bon Dieu donne, le bon Dieu retire. Albert le Grand est saint. Mais c'était une illustration de l'amnésie. Mais notre pays n'est pas amnésique. Il a piétiné par ses lois, par ses péchés si nombreux. Les promesses que Clovis avait faites, que le roi Louis XIII a réitérées par ses donations officielles de ce pays, dans les bras de l'Immaculée. Alors prions, pleurons, parce que c'est une grande tristesse. Oui, pleurons nos péchés, pleurons les péchés de nos pays, bien sûr. Demandons au bon Dieu que les âmes quittent non seulement cette amnésie, cet oubli, mais reviennent à ses promesses officielles de consécration de ce si beau pays à la Vierge Marie. La Vierge Marie qui, dans cette Assomption glorieuse, rend grâce au bon Dieu de tout ce qu'il a fait pour elle. C'est son chant dont nous avons eu quelques petits versets dans l'Évangile de ce jour. Bien des auteurs résument ce Magnificat en deux, trois mots. Le triomphe de l'humilité, l'extase de l'humilité. L'extase. Pourquoi l'extase? Parce que Notre-Dame est hors d'elle-même. C'est cela l'extase. On est hors de soi. Ce qui ne signifie pas perdre ses sens, perdre sa raison, perdre le contrôle de soi-même. Quelqu'un qui est hors de soi ne se contrôle plus. Il est hors de lui-même, hors d'elle-même. Il est furieux. Mais l'extase, c'est tout l'inverse. Elle est en Dieu. Et dans son Magnificat, elle exalte la grandeur de Dieu et sa petitesse. Voyons de plus près. Car le Magnificat, à travers les paroles que Notre-Dame a prononcées, sept groupes de paroles dans sa vie, bien sûr, elle a parlé plus que cela, mais l'Évangile a conservé sept groupes de paroles. Et le Magnificat À travers ces dix versets, Notre-Dame, entre guillemets, est bavarde. Elle parle. Dix versets pour toute une vie, on ne peut pas dire que ce soit très bavard. Mais ce sont les paroles que l'Évangile a conservées en Saint-Luc, lorsque Notre-Dame se rend chez sa cousine Élisabeth. Élisabeth qui reconnaît par inspiration divine que cette jeune femme qui est sa cousine est plus qu'une petite. À l'instant où votre voix a retenti à mes oreilles, l'enfant que je porte, dit-elle, a tressailli de joie. Et Jean-Baptiste est sanctifié dans le sein de sa mère. Et Élisabeth prophétise. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Élisabeth ne peut pas concevoir cette parole d'elle-même. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et Notre-Dame va dire merci en ces termes. Mon âme magnifie le Seigneur. Mon esprit exulte de joie dans le Dieu de mon salut. Donc, ces deux premiers versets, dans ces deux premiers versets, Notre-Dame ne pense pas à elle. Elle pense à Dieu. Elle regarde Dieu. Elle rend tout à Dieu. Bien sûr, c'est mon âme, mon intérieur. Magnifie le Seigneur. Vous voyez, c'est l'extase. Mon esprit, ce n'est pas mes sentiments, ce ne sont pas mes émotions, c'est mon esprit, c'est ma raison, c'est mon intérieur. Notre-Dame, la femme la plus raisonnable qui ait jamais existé. Notre-Dame, l'Immaculée dans sa conception. Mon esprit exulte dans le Dieu de mon salut. En effet, Notre-Dame est rachetée avant sa conception, puisqu'elle est immaculée. C'est le dogme que le pape Pie IX a défini il y a presque deux siècles à présent, 1854. Oui, le Dieu de tous s'est adressé d'abord à Notre-Dame. Il l'a préservée pour qu'elle devint la mère du Sauveur. Elle est préservée du péché originel. Elle est rachetée avant sa conception. Nous le sommes avec le baptême. Mais nous avons le péché originel. Donc vous voyez, la théologie de Notre-Dame est exacte. Elle est précise. Extrêmement fine. Donc d'abord, dans ces deux versets, Notre-Dame va exalter le bon Dieu, qui est tout-puissant. Elle le dira qu'il est tout-puissant par la suite. Après avoir contemplé et rendu grâce à Dieu de ce qu'il est, elle le remercie pour ce qu'il a fait pour elle, parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante. Il a regardé. Il a jeté les yeux sur elle. Il a daigné la regarder. Oh, comme le regard du bon Dieu a dû être, et toujours d'ailleurs, il ne termine pas avec cette annonciation, cette visitation, les délices qu'il a pour Notre-Dame. Il regarde toujours Notre-Dame, et pourquoi donc? Parce qu'elle est humble. Quelle leçon pour nous tous, les bien chers frères. Car à travers ce Magnificat, c'est une leçon pour chacun d'entre nous, sans exception. Sans exception. Prenons compte des paroles que la Vierge Marie adresse à Élisabeth, puisqu'elle est présente. Il n'y a que Élisabeth qui entend ces mots-là, et Jean-Baptiste au-dedans d'elle, puisqu'il est sanctifié dès la venue de Notre-Dame à la maison d'Élisabeth et Zacharie. Et donc, il a regardé la bassesse, l'humilité de sa servante. Et par la suite, dans cette deuxième moitié du troisième verset, « Désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. » Et ça, c'est pour nous, eh bien, chers frères. Quand nous prions Notre-Dame, nous exaltons la Vierge Marie. « Toutes les générations me proclameront bienheureuse. » Une béatitude adressée à la Vierge Marie. Elle est bienheureuse. Joignons nos jubilations à toutes les cohortes qui ont aimé, chanté, publié les louanges de Marie aujourd'hui. Et Notre-Dame est consciente de ce que le bon Dieu a fait en son cœur, en son âme. Il a fait pour moi de grandes choses. De grandes choses. Celui à qui appartient la puissance, car son nom est saint. Dieu est saint. Elle publie la sainteté de Dieu. Quelle reconnaissance pour la majesté, la sublimité de la divinité, de la Sainte Trinité. Son nom est saint. Et en Notre-Dame, il a fait de grandes choses, Magna Lea Dei. Ces grandes choses que les apôtres à la Pentecôte vont publier à tous ceux qui vont les entendre une fois qu'ils auront reçu le Saint-Esprit. Notre-Dame est pleine du Saint-Esprit. Notre-Dame a connu sa Pentecôte dans sa conception. Elle est immaculée. Tout en elle publie la grandeur de Dieu, sa puissance, sa toute-puissance. Et le cinquième verset, pour le cinquième verset, la Vierge Marie pense à nous, dans sa bonté, dans sa maternité. Notre-Dame est mère, et une mère pense à ses enfants. Et sa miséricorde s'étend d'une génération aux autres générations sur ceux qui le craignent. La crainte de Dieu, premier don du Saint-Esprit, crainte filiale. Craignons Dieu, donc aimons le bon Dieu. Et la conséquence sera immédiate et perpétuelle, la miséricorde du bon Dieu. Elle va s'étendre, elle s'étend sur nous si nous avons la crainte de Dieu, si nous craignons d'offenser le bon Dieu. Voilà. Cette parole que le bon larron adressera à l'autre. N'as-tu pas la crainte de Dieu ? N'as-tu pas la crainte de Dieu ? Donc le début de la sagesse commence avec cette crainte de Dieu et la récompense de cette crainte de Dieu, c'est la miséricorde qui vient de Dieu pour nous pauvres pécheurs. Il a par son bras, au sixième verset, il a par son bras fait œuvre de puissance. Dieu est terrible. Le bras de Dieu. Ailleurs, on entend dans l'Évangile le doigt de Dieu. Là, c'est le bras de Dieu. Donc, non seulement un doigt, mais cinq, mais la main, mais l'avant-bras, mais tout le bras de Dieu, la puissance de Dieu. Et que résulte-t-il, mes frères, de ce bras de Dieu ? Elle le dit. Il a dispersé ceux qui sont orgueilleux. D'un côté, l'humilité, elle a commencé par cela. Elle est toute humble, toute vraie. Elle le publie parce que l'humilité, c'est la vérité et réciproquement. Ces deux réalités se conjuguent, s'unissent pour toujours, l'humilité et la vérité. Notre-Dame est dans le vrai. Elle aime la vérité. Elle est la mère de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en conséquence, elle est humble, parfaitement humble. Mais pour les orgueilleux, c'est terrible. Alors là, c'est le tonnerre, c'est l'orage, la tempête, l'ouragan, le fracas, le chaos. Il a dispersé ceux qui s'enorgueillissaient de leurs pensées de leur cœur. Il les aveugle. Et nous voyons bien, à travers l'histoire de l'Église et de toute l'humanité, avant Jésus-Christ, depuis Jésus-Christ, à quel point l'orgueil fait des ravages et aveugle les cœurs, les âmes, les enténèbre. Ce n'est pas l'amnésie dont je parlais au début, mais c'est la haine de Dieu. L'orgueil provoque la haine de Dieu, la mort des corps, la mort des âmes. Satan est homicide. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, par son bras, disperse les orgueilleux. Il les pulvérise. Il ne restera rien des orgueilleux. Quelle leçon pour nous aussi. Le Magnificat, l'extase de l'humilité. Et à contrario, la folie de l'orgueil. Il a détrôné, continue-t-elle, les puissants, exalte les humbles. Il a rassasié les affamés et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Notre-Dame, notez-le bien, vous connaissez les évangiles, il y a des parallèles avec d'autres passages dans l'évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ, bien plus tard, 30 ans plus tard, 31 ans plus tard, sur le mont des Béatitudes, va chanter les Béatitudes et il va reprendre textuellement les mots de Notre-Dame, comme si Notre-Dame les lui avait soufflés, en quelque sorte. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans une des Béatitudes, dit bien ceci, les affamés, il les rassasie. Les riches, il les renvoie les mains vides. Notre Seigneur a fait des béatitudes, a prononcé des béatitudes. Eh bien, Notre-Dame prophétise sur ce que Jésus-Christ, son divin Fils, dira bien plus tard. Quelle union entre ces deux esprits, ces deux cœurs, ces deux âmes, la mère et le Fils et la mère. Et elle va terminer ce Magnificat par un petit verset. Il a élevé jusqu'à lui son serviteur Israël, se souvenant de sa miséricorde. Qu'est-ce que c'est que ce Israël ? Ce n'est pas l'Ancien Testament. À partir de la venue de Jésus-Christ ici-bas sur terre, l'Ancien Testament se termine. Donc Notre-Dame ne pourrait pas dire « Il a élevé jusqu'à lui son serviteur Israël ». Cet Israël, c'est l'Église qui va naître. C'est l'Église. C'est nous, fils de l'Église, enfants de l'Église par le baptême. Notre-Dame, avec notre Seigneur Jésus-Christ, sera présente d'âge en âge, de génération en génération, sur ceux qui craignent le bon Dieu. Notre-Dame est présente dans l'Église à travers les siècles. Donc après l'Évangile, ouvrons, ce n'est pas le propos de ce matin, ouvrons les pages d'histoire, les apparitions de la Vierge Marie à travers les siècles, en France et ailleurs. Et dans ces derniers siècles, Notre-Dame est souvent apparue. Elle rechante le Magnificat. Elle nous fait prier. Prier pour les pécheurs. Prier pour notre persévérance. Prier pour la gloire de Dieu. Le salut des âmes. Voilà ce que Notre-Dame, dans son cœur immaculé, veut nous faire comprendre. À travers l'humilité. À travers son humilité. Que de leçons à travers ce Magnificat. Et aujourd'hui, bien sûr, Notre-Dame est couronnée au ciel, dans son Assomption. Tâchons de nous imaginer, un jour, nous le serons, non pas par l'imagination, mais par la révélation, par la connaissance exacte de ce qui s'est passé dans ce jour béni de l'Assomption, Notre-Dame élevée au ciel par les anges, non pas par sa propre puissance, comme le fut Jésus-Christ à l'Ascension, mais par les anges. Elle est portée, transportée par les anges, par tous les anges dont elle est la reine, et qui chante et qui publie ses louanges, ses mérites, ses grâces, sa médiation, sa co-rédemption. Tous ces privilèges, les anges vont chanter aujourd'hui, ont chanté et continuent de chanter les grandeurs de Dieu qu'il a attribuées, qu'il a octroyées à sa bienheureuse mère. Il était digne que Notre-Dame vint au ciel, non seulement avec son âme, mais aussi avec son corps, pour rejoindre celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons les fêtes de la Vierge Marie. Soyons dans l'allégresse, en méditant, en contemplant les grandeurs, les beautés de Notre-Dame, l'exaltation de Notre-Dame dans son humilité, l'extase de son humilité. Aimons Notre-Dame, soyons fils et filles de Marie. Beaucoup parmi nous portent soit un premier nom, soit en deuxième, troisième ou quatrième nom, ou davantage encore, le nom de Marie. Cela montre que les familles chrétiennes aiment Notre-Dame. Alors, souhaitons-nous à tous une bonne et sainte fête, parce que Notre-Dame est notre mère. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.